Vous écoutez France Culture.
Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Les Gilets jaunes passent à l'acte dans cette édition coup d'œil sur les mobilisations les plus importantes avec Hugo Charpentier. Nous serons en ligne avec le député La République En Marche du Maine-et-Loire, Mathieu Orphelin. L'élément fédérateur de ce mouvement a été la hausse des taxes sur les carburants. Bref, historique des fluctuations des prix du pétrole dans la bulle éco, signée ce samedi, Anne-Laure Chouin. Également au sommaire de ce journal, les dernières révélations du Washington Post, le journal de feu Ramal Khashoggi. La CIA croit savoir que c'est le prince héritier Mohamed Ben Salman qui a lui-même ordonné le meurtre de notre confrère. Le ministère de l'Intérieur a sans tarder livré ses relevés et autres éléments de langage en milieu de matinée, extrait de la déclaration du ministre Christophe Castaner. Il n'y a quasiment pas de points de blocage, seuls sont bloqués des points d'accès, mais aucun axe stratégique concerné. Une manifestante heurtée par le véhicule d'une conductrice qui a paniqué un barrage est décédée en Savoie. Et un piéton a été renversé dans le Pas-de-Calais. Il est dans un état critique. Bonjour Hugo Charpentier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Hugo, 1083 points de tension, 50 000 personnes sur ces points. Avec vous, voyons où les gilets jaunes sont les plus nombreux.
Eh bien, la mobilisation la plus importante se déroule à Caen, avec près de 800 manifestants. Un véritable cortège de gilets jaunes qui a pris la direction à pied en fin de matinée de la préfecture du Calvados. Dans le reste du pays, des rassemblements souvent plus modestes, mobilisation par centaines de grandes scintes dans le nord jusqu'à la promenade des Anglais à Nice, avec des opérations escargots comme sur les rocades de Rennes, de Strasbourg, mais aussi des barrages filtrants comme en Charente-Maritime, sur le pont de l'île de Ré ou à Perpignan au niveau du péage au nord de la ville. Dans les Pyrénées-Orientales, plusieurs centaines de manifestants depuis ce matin. Parmi eux, Thomas, qui explique bien que ça se déroule dans le calme.
En fait, on laisse passer deux voitures toutes les 5 ou 10 minutes. Ça dépend s'il y a du bouchon, on laisse passer. S'il y a un peu moins de bouchon, on attend 10 minutes et on laisse passer deux voitures. Oui, il y en a qui râlent, mais là, il y a quand même, allez, on va dire, plus de la moitié qui sont quand même conciliants. Enfin, là, vous pouvez le voir, il n'y a aucun débordement, les gens attendent. Puis bon, ils sont aussi solidaires. Après, ils doivent aller travailler, ça se comprend. C'est pour ça, on discute avec eux. Là, on va leur proposer du café, des coca, du café, du coca, si jamais ils veulent, pour patienter un peu plus agréablement.
Voilà, calme relatif, donc. Mais la colère, elle, est bien là, avec les mêmes mots d'ordre dans les rassemblements. Peuple en colère, peut-on lire inscrit en gros sur une pancarte à Marseille, ou encore stop aux taxes marqué sur les vestes jaunes fluo des manifestants dans le Gard. La colère aussi près de Toulouse, où un cortège bloque partiellement les accès à l'aéroport de Blagnac. Bernard fait partie de ces gilets jaunes, il est retraité, ancien gendarme, et c'est la première fois qu'il descend dans la rue.
Non, jamais je suis allé manifester, mais là aujourd'hui c'est vraiment le ras-le-bol. Moi ça fait 10 ans que j'ai mon pouvoir d'achat qui est zéro. C'est scandaleux. On a beau faire des efforts, et malgré tout, la pression fiscale continue d'exploser. On le voit bien au niveau de la CSG. La CSG, ils étaient à 15,5, ils sont passés à 17,2, et puis le prochain coup, c'est quoi? Il y a tout qui augmente, les soins, tout. Là, il y en a vraiment ras-le-bol aujourd'hui.
Le ras-le-bol et la mobilisation en cours également à Paris, des ralentissements bien sûr sur le périphérique, mais le mouvement devrait se durcir plutôt dans l'après-midi puisque l'appel à manifester dans la capitale est fixé pour 14h.
Et Hugo Charpentier, il y a également eu au cours de cette matinée de graves incidents.
Oui, avec ce drame en Savoie, à Pont de Beauvoisin, une manifestante a été mortellement renversée par une automobiliste. Au volant de la voiture, une femme qui emmenait sa fille chez le médecin, elle a paniqué, accéléré et percuté cette manifestante âgée d'une soixantaine d'années. La conductrice est actuellement en garde à vue. À Arras, dans le Pas-de-Calais, c'est un piéton qui est lui dans un état grave après un accident similaire. Et puis enfin à Grasse, dans les Alpes-Maritimes, un policier a été renversé par un automobiliste qui tentait de forcer un barrage. Le fonctionnaire est légèrement blessé.
Merci à vous, Hugo Charpentier. Bonjour Mathieu Orphelin.
Bonjour à vous.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député La République En Marche de Maine-et-Loire. Vous ne les découvrez pas, ces gilets jaunes? Qui sont-ils alors?
Non, je ne découvre pas. Ça fait des mois, effectivement, qu'on sent ce ras-le-bol monté, je crois que votre reportage vient de le montrer à nouveau. Voilà, c'est des gens qui expriment une colère qu'il faut entendre aujourd'hui, apporter des réponses. C'est ce qu'a commencé à faire le gouvernement cette semaine avec les 500 millions d'aides pour accompagner les Français, notamment ceux qui en ont le plus besoin dans cette transition écologique. Mais globalement, effectivement, derrière cette question du carburant, moi j'ai rencontré beaucoup de gens encore hier, les responsables des gilets jaunes ici à Angers. Je crois que derrière tout ça, c'est effectivement la difficulté de s'en sortir aujourd'hui. C'est l'impression, certains m'ont dit, de plus être capable que de survivre, mais pas de vivre normalement ou dignement, notamment pour ceux qui travaillent. On a mis en place des mesures pour que les plus petits salaires puissent être mieux valorisés.
Mesure insuffisante ou considérée comme telle. Dire on a bien entendu la rue, ça risque de ne pas suffire, monsieur Orphelin.
Non, moi je pense qu'effectivement on a. Moi hier, je discutais avec un des représentants des Gilets jaunes à Angers qui me disait, vous savez, moi je suis au SMIC, je m'en sors plus, je vais travailler tous les jours à 20 km de chez moi et j'arrive pas à boucler en fin de mois. Donc oui, on a mis en place des mesures spécifiquement pour ces cas-là, la baisse des cotisations sociales. La prime d'activité qui va être à nouveau rehaussée
Problème. Voilà, il faut réconcilier celles et ceux qui n'ont pas de contrepartie de l'impôt et l'État. Comment faire?
C'est une vraie question complexe parce qu'effectivement, ça fait des années que ça dure. Là, ça s'accroît, il y a ce ras-le-bol généralisé. Eh bien, moi, j'ai pas envie de baisser les bras. J'ai envie d'écouter, d'entendre et de proposer à nouveau d'autres mesures dans les prochaines semaines et les prochains mois parce qu'il faut entendre cette colère qui s'exprime. Mais je veux pas laisser croire qu'on ne fait rien. Les 500 millions d'aides de cette semaine annoncés par le gouvernement pour accélérer les travaux de rénovation énergétique, pour accélérer le changement de véhicule, etc. Tout ça, ça va permettre de redonner du pouvoir d'achat aux gens. Parce que ce qui coûte cher aujourd'hui, c'est que le carburant soit cher pour aller travailler, c'est que les factures d'énergie à la maison soient
très élevées. Aujourd'hui,
Non mais je voudrais pas qu'on. Ça fait des années que ça dure. Aujourd'hui, il y a un foyer sur trois en France qui peut plus se chauffer. Parce que les maisons sont mal isolées ou parce que les factures sont trop chères, plus chauffées correctement. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a décidé d'agir. Il y a les nouvelles aides pour changer de chaudière fuel. Il y a un certain nombre d'autres dispositifs massifs qui devraient être annoncés, si tout va bien, par le gouvernement dans 15 jours. Donc, on continue d'accompagner au mieux les gens. Est-ce que ce qu'on fait, c'est suffisant? Sûrement pas encore aujourd'hui, mais on a choisi d'apporter des réponses concrètes. C'est le sens du plan du gouvernement cette semaine. Je dis pas que ça suffit. Il faut qu'on aille plus loin. Mais la meilleure réponse, c'est de montrer aux gens comment on peut vraiment changer la donne pour leur situation aujourd'hui.
Merci à vous. Merci Mathieu Orphelin d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes député La République En Marche, député de Maine-et-Loire. Le dernier bilan des incendies en Californie est de 71 morts et de plus de 1000 personnes portées disparues à plus de 200 km au sud du principal foyer Camp Fire à San Francisco. L'air est irrespirable, qualifié de très malsain. La polémique enfle sur la gestion catastrophique des forêts californiennes. Avant-hier, la justice saoudienne reconnaissait le démembrement à Istanbul le 2 octobre dernier du journaliste saoudien Jamal Khashoggi tout en épargnant le prince Mohamed Ben Salman. Dans la foulée, et les présidents turcs et américains ont martelé qu'ils ne laisseraient rien passer sur ce dossier. Cette fois, c'est le Washington Post, journal de Jamal Khashoggi, qui publie de nouvelles révélations confondantes pour le prince héritier. Bonjour Laura Dulieu.
Bonjour.
Laura, tout serait parti d'un coup de fil à très haut niveau.
Oui, et lors de ce coup de fil, Khalid Ben Salman, qui est aussi, on le rappelle, l'ambassadeur saoudien aux États-Unis, Khalid Ben Salman conseille à Jamal Khashoggi de se rendre au consulat saoudien à Istanbul. Il lui assure qu'il ne lui arrivera rien. Selon le Washington Post, cet appel a été passé à la demande du prince héritier Mohamed Ben Salman, mais il n'est pas établi que Khalid Ben Salman savait que le journaliste allait être assassiné. Pour le quotidien américain, la CIA ne croit pas à l'innocence de MBS, car toujours selon le Poste, même si aucune preuve matérielle ne met directement en cause le prince héritier, son influence est telle qu'il semble peu concevable qu'il n'ait pas donné son aval. Pour l'instant, la CIA refuse de commenter ces révélations. Tout ça complique encore un peu plus la tâche de Donald Trump, qui cherche tant bien que mal à préserver les intérêts américains avec son allié saoudien. Le vice-président américain Mike Pence, lui, fait l'équilibriste. Il déclare en marge du sommet de l'APEC que les meurtriers de Khashoggi devront rendre des comptes devant les États-Unis. Mais il ajoute vouloir préserver le partenariat fort et historique avec l'Arabie saoudite. Sauf que cette affaire divise jusque dans les rangs du Parti républicain. Avant-hier, des sénateurs républicains et démocrates ont présenté une loi pour sanctionner l'Arabie saoudite. Le texte demande la suspension des ventes d'armes américaines à Riyad. Alors pour anticiper, le gouvernement américain a annoncé des sanctions contre 17 Saoudiens impliqués dans le meurtre du journaliste. Des sanctions jugées insuffisantes par les sénateurs et qui n'apaiseront sans doute pas les relations américaines avec le Royaume saoudien.
Merci à vous, Laura Dulieu. Au Togo, marche de la coalition de l'opposition et de ses 14 composantes ce matin à Lomé, la capitale. Une coalition très en colère contre les réformes constitutionnelles, institutionnelles, la révision du code électoral. Elle appelle cette coalition au boycott des élections législatives du 20 décembre prochain.
La bulle économique, Anne-Laure Chouin.
Il est 12h40 et comme convenu, cette bulle économique porte sur les prix du pétrole, leurs variations et leur impossible maîtrise.
La grogne pétrolière, ça n'est pas nouveau. De la petite colère de l'Automobile Club en 1995 à la flambée européenne des prix du pétrole et des taxes en 2000, en passant par la hausse du gazole de 20% en 2004, qui mit pêcheurs, agriculteurs et routiers sur les routes de France, le sujet du carburant est ultra sensible. Presque aussi sensible que le pétrole lui-même, une matière première stratégique dont les variations de cours sont quasi impossibles à prévoir et pour cause, il existe au moins quatre catégories de facteurs qui les expliquent. D'abord l'état de la croissance mondiale et partant de la consommation mondiale, bref, la demande. Ensuite l'état des capacités de production de pétrole, l'importance des stocks, les conditions de production, la découverte ou l'épuisement de gisements par exemple, bref, l'offre. Ensuite, la santé du dollar sur le marché d'échange. C'est dans la devise états-unienne, en effet, qu'est négocié le baril. Et la plupart du temps, quand le dollar baisse, le prix du pétrole augmente par effet de compensation. Ensuite, la situation géopolitique des pays producteurs de pétrole ou celle de leur région. Pour faire court à chaque crise près du berceau pétrolifère moyen-oriental, le risque de voir le prix du brut s'envoler augmente, du fait notamment des prévisions de difficultés d'approvisionnement. Et l'on ne parle pas ici des facteurs climatiques, une tempête dans le golfe du Mexique qui pourrait perturber par exemple l'extraction. Bref, tout expert qui se vanterait de prévoir de manière certaine l'évolution des prix du pétrole dans les mois ou les années à venir peut légitimement passer pour un charlatan. La seule chose qu'on observe, c'est qu'après une hausse des prix, survient toujours une baisse et l'inverse est aussi vrai.
J'aime ça, le pétrole.
Et le prix du carburant en France dans tout cela? Eh bien, il varie en fonction évidemment des variations du pétrole brut, mais cette variation ne constitue que 30% de son prix final après raffinage. Le reste, c'est 10% de coûts de raffinage, justement, de transport et de marge des entreprises pétrolières. Et pour 60%, il s'agit de taxes. Il y en a deux, ou plutôt trois. La TVA, la TICPE et la TVA sur la TICPE. Oui, il y a un impôt sur l'impôt. Cette TICPE est fixée pour un an dans le budget de l'État et elle est un gros contributeur de ses recettes publiques puisqu'elle vient après la TVA, la CSG, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. La TICPE abonde à la fois l'État, les régions et les départements. TICPE, ça signifie taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. C'est l'ancienne TIPP, mais avec une composante carbone qui vise explicitement à pénaliser la pollution induite par les carburants. Plus ils sont polluants, plus ils sont taxés, c'est toute la logique. Une taxe qui, elle, ne varie pas pendant un an, qui ne s'adapte pas donc aux variations du cours du brut. Enfin, une taxe qui, comme toutes les taxes, a plus de chances d'augmenter ou de rester stable que de baisser.
Je suis capable de tout pour du pétrole.
Autre question, cette politique de taxation du carburant d'origine fossile est-elle efficace? On peut imaginer qu'un produit de plus en plus cher deviendra un jour trop cher et que les consommateurs s'en détourneront. Un effet prix prouvé par exemple sur le paquet de cigarettes. Reste que la France, c'est la France. Entendez, ça n'est que la France. Selon l'analyste et spécialiste de l'énergie Francis Perrin, si la France peut, grâce à cette politique, maîtriser la consommation à son niveau, elle n'est pas la plus consommatrice de pétrole au monde et encore moins la plus grosse productrice. Le pays ne produit qu'un petit pourcent du pétrole qu'il consomme. Et si cette transition énergétique amorcée via les hausses de taxes peut éventuellement avoir valeur d'exemple au niveau international, encore que, l'effet réel de cette politique au niveau mondial et sur le climat pourrait se comparer à une goutte d'eau dans l'océan.
Merci à vous, Anne-Laure Choin, pour cette bulle éco. Selon le ministère de l'Intérieur, et ce sont là les dernières informations qu'il a livrées, il y a 24 personnes interpellées lors des manifestations des Gilets jaunes, un mort, 47 blessés, dont 3 plus gravement, et un peu moins de 125 000 manifestants recensés dans toute la France. Les quelques mots de la météo de l'après-midi, du soleil sur la majorité du territoire, de la pluie en revanche sur la vallée du Rhône et le long du pourtour méditerranéen, à l'exception de la Côte d'Azur, avec un ciel sans aucun nuage, température maximale comprise dans l'après-midi entre 7 et 16 degrés. Ce journal a été préparé avec Emmanuel Faucillon, à la technique Emmanuel Morse-Duncan.